Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Hocus Pocus, réalisée par les élèves de 3e latiniste du collège Albert Camus de Vierzon. Nous sommes Eliette
et Pénélope,
nous animerons votre émission aujourd'hui. Le thème de notre émission est la magie, la sorcellerie et plus particulièrement dans l'Antiquité.
Comme nous sommes dans le Berry, une terre de sorcellerie, nous commencerons par définir ce qu'est la magie et évoquerons son importance dans la région. Ensuite, Charline, Maëlle et Lara nous parleront des sorcières de l'Antiquité. Et enfin, Steven et Timothée aborderont le sujet des filtres, des charmes et des maléfices. Nous recevrons également une invitée qui est Médée.
Notre thème du jour est donc la sorcellerie. Mais c'est quoi la sorcellerie, Pénélope ?
En fait, la sorcellerie se divise en deux catégories, la magie noire et la magie blanche. La magie noire, c'est quand on se sert de pouvoirs surnaturels pour faire des choses malveillantes, maléfiques et souvent pour son intérêt personnel. Contrairement à la magie blanche, qui est plutôt dans un but positif, comme celui de soigner.
J'ai entendu dire que dans le Berry, les croyances à ce sujet étaient plus nombreuses qu'ailleurs, mais c'est vrai ?
Oui. Dans le Berry, les croyances sont nombreuses. Elles ont longtemps été alimentées par des livres comme La mare au diable de George Sand, et elles restent toujours ancrées aujourd'hui.
Mais finalement, les personnes qui pratiquent la sorcellerie de nos jours, comment est-ce qu'on les reconnaît ? Ont-elles le nez crochu, un balai volant ?
Absolument pas. Les gens que l'on appelle des sorciers soignent souvent par des prières ou des gestuels transmises de génération en génération. D'autres utilisent des baguettes pour trouver des sources, ce sont les sourciers. D'autres encore maîtrisent les vertus des plantes. De nombreuses plantes poussant dans le Berry font partie de l'histoire de la magie. Par exemple la ciguë, le saule blanc ou encore l'hélébore.
Ces sorciers et sorcières modernes, est-ce qu'ils parlent de leur pouvoir ?
Les berrichons ont longtemps eu honte de leur réputation. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il existe même une fête de la sorcière et le musée de la sorcellerie à Concressault. Il y a aussi des professionnels de la sorcellerie, comme les rebouteux, les guérisseurs ou encore les magnétiseurs.
La sorcellerie n'existe pas que dans le Berry. Dès l'Antiquité, on parlait de sorcières et on les craignait. C'est de certaines d'entre elles dont nous allons vous parler avec Lara, après Highway to Hell d'ACDC.
Yeah.
Nous voici donc avec Lara. Bonjour Lara.
Bonjour.
L'une des sorcières que nous allons évoquer est Kanidi. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Kanidi est apparue à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Horace, poète latin, en tant qu'empoisonneuse et nécromancienne.
C'est quoi une nécromancienne ?
Une nécromancienne pratique la nécromancie. C'est l'art de parler aux morts et de pouvoir les invoquer. Kanidi est laide et très vieille. Elle est représentée avec une robe noire, des cheveux détachés et entrelacés avec des serpents. Elle se déplace pieds nus dans les cimetières.
Elle a vraiment existé ? Et pourquoi est-ce qu'on la considère comme une sorcière ?
Non, heureusement, Kanidi n'a pas réellement existé. C'est un personnage récurrent dans les textes d'Horace. Elle est monstrueuse. Par exemple, Horace raconte qu'elle a tué un enfant pour concocter une potion qui fera revenir son amant.
Mais c'est atroce !
Oui, c'est horrible. Elle a torturé le garçon, elle l'a affamé pour le faire mourir lentement.
Il y a aussi d'une autre sorcière dont tu veux nous parler. Pamphile, c'est ça ?
Exactement. Pamphile est une sorcière dans l'Antiquité qui apparaît dans le roman L'âne d'or d'Apulée du IIe siècle. Dans le roman, elle se métamorphose en hibou.
En hibou ? Mais comment elle fait ça ?
La métamorphose se fait en trois étapes. D'abord, elle retire ses vêtements. Ensuite, elle s'enduit le corps de baume. Puis, elle fait son incantation. Apulée écrit « Voilà ses membres qui s'assouplissent et disparaissent. D'abord sous un fin duvet, puis sous un épais plumage. Son nez se courbe et se durcit. Ses ongles s'allongent et deviennent crochus. Pamphile est changée en hibou. Elle jette un petit cri plaintif et, après quelques essais de vol à ras de terre, la voilà qui prend l'essor à tire d'elle. »
Mais est-ce qu'elle a d'autres pouvoirs ?
Oui, elle a beaucoup de pouvoirs. Par exemple, elle peut prévoir le temps.
Ça, c'est vraiment pratique.
Maîtriser les actions des gens, troubler le cours des astres ou encore commander aux dieux Man, qui sont les divinités représentant les âmes des morts.
Autant de pouvoirs en une seule personne, mais c'est vraiment impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Il existe de nombreuses autres sorcières, notamment Circé.
Merci beaucoup Lara pour ces explications. Je laisse la parole à Pénélope, qui va interviewer Charline et Maëlle autour d'autres sorcières.
Alors Charline, toi, tu vas nous parler de Locuste, c'est ça ? Est-ce qu'elle a réellement existé ?
Oui, Locuste est une sorcière qui a réellement existé durant l'Antiquité, et elle a vécu à Rome au 1er siècle.
Mais qui est-elle ?
Selon les historiens, Suétone et Tacite, c'était une vendeuse de philtres maléfiques, de poisons qu'elle fabriquait. D'ailleurs, elle pratiquait la mithridatisation, c'est-à-dire qu'elle buvait un peu de poison chaque jour pour s'immuniser contre n'importe quelle sorte de poison.
Et on connaît des victimes de cette sorcière ?
En 54, elle a empoisonné l'empereur Claude à la demande d'Agrippine, sa quatrième épouse. Agrippine voulait que son fils, Néron, soit le futur empereur. Elle a donc fait appel à Locuste pour mettre fin aux jours de Claude. Tacite raconte que Locuste a aussi aidé Néron à se débarrasser de Britannicus qui était déjà un potentiel rival, puisque c'était le fils légitime de Claude, mais rien n'est sûr à ce sujet.
Locuste était donc une empoisonneuse dans tous les sens du terme. Comment est-ce qu'elle a fait pour faire disparaître un personnage aussi important que l'empereur ?
Pour l'empereur Claude, on lui a servi son plat favori, des cèpes, mais ils avaient été imbibés de poison. Tacite raconte que l'empereur a une forte diarrhée, ce qui a évacué une partie du poison. Agrippine a donc fait venir un médecin, Xénophon, qui était complice. Pour faire vomir les malades, on grattait la gorge avec une plume à l'époque. Celle de Xénophon était couverte d'un poison rapide. Claude n'a pas survécu.
Ah, finalement, le pouvoir de Locus, c'est tout dans sa connaissance des plantes.
Exactement.
Merci Charline. Maëlle, c'est de Circé qui apparaît dans l'Odyssée d'Homère dont tu vas nous parler, c'est ça ?
Oui, de Circé, la fille d'Hélios, dieu du soleil et de Perséis.
Et elle ressemble à quoi ? À une créature monstrueuse ?
Absolument pas. Circé est très très belle. C'est grâce à cette beauté qu'elle piège les humains. Elle a une voix merveilleuse. Elle accueille les compagnons d'Ulysse en leur offrant à boire et à manger.
C'est donc pas une sorcière, elle a l'air sympa ?
Au contraire, les apparences sont trompeuses. Circé est très dangereuse. Prenons l'exemple de l'Odyssée. Lorsqu'Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île d'Ayaïe, Circé se montre très hospitalière. Elle les accueille, leur offre à boire et à manger, mais en fait, elle leur fait boire une potion qui, associée à des incantations et un coup de baguette magique, les transforme en porc.
Ah d'accord, elle cache sa monstruosité sous une belle apparence.
C'est tout à fait cela. Elle est perfide et même cruelle, car les compagnons d'Ulysse ont l'aspect de porc, mais elle leur laisse leur esprit humain pour qu'ils souffrent bien de leur situation.
Ah, ça donne des frissons. Tu nous as dit que Circé était la fille d'Hélios, le dieu du soleil.
Oui, Circé, comme sa sœur Médée et les sorcières, a dans les yeux des étincelles de feu rappelant Hélios. Son regard était perçant et maléfique.
Maëlle, tu viens de nous parler de Médée. Figure-toi que nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Enfin, Charline jouera le rôle de cette terrible sorcière. Nous la retrouverons dans quelques minutes après le groupe Images et les démons de minuit. Bonjour Médée.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre émission Hocus Pocus consacrée à la sorcellerie.
C'est à moi de vous remercier de m'avoir invitée.
Nous sommes curieux de mieux vous connaître, mais d'où êtes-vous originaire ?
Je viens de Colchide. Pour ceux qui ne le savent pas, la Colchide se situe sur la côte orientale de la mer Noire. En Géorgie, pour simplifier, si vous voulez.
Vous êtes d'une famille illustre, mais racontez-nous !
Oui, c'est vrai, je suis fière de ma famille. Mon père est Aétès, le roi de la Colchide, et ma mère est Katz, déesse de la lune. Elle a le contrôle absolu sur la magie et la sorcellerie. Mon grand-père est Hélios, le dieu du soleil, et vous avez déjà parlé de ma sœur Circé.
Une princesse aussi illustre et belle que vous a forcément provoqué l'amour. Acceptez-vous de nous en parler car je sais que cela peut éveiller des moments douloureux.
C'est vrai, c'est difficile pour moi. Vous faites bien sûr allusion à Jason.
Oui, c'est ça. Jason, ce jeune héros grec venu chez vous en Colchide pour aller chercher la toison d'or.
Jason comptait énormément pour moi. Dès que je l'ai vu, je suis tombée follement amoureuse de lui. Moi, prêtresse, magicienne, princesse, j'ai tout sacrifié pour lui. Je lui ai aidé à conquérir la toison alors qu'elle appartenait à mon père.
Comment l'as-tu aidé ?
J'ai préparé des baumes pour le protéger des naseaux brûlants de taureaux cracheurs de feu que mon père lui avait demandé de soumettre. Mes sortilèges ont endormi le dragon qui gardait la toison. Jason a pu la prendre et je l'ai suivi.
Finalement, vous avez trahi votre peuple pour lui ?
J'ai fait pire. Quand nous avons quitté la Colchide, j'ai amené avec moi mon propre frère. Les bateaux de mon père nous poursuivaient. Pour les ralentir, j'ai tué mon propre frère, je l'ai coupé en morceaux. Les gardes de mon père se sont arrêtés, à plusieurs reprises pour les ramasser. C'est comme ça que nous les avons semés.
Comment expliquez-vous ce geste ? C'est vraiment terrible quand même.
Je suis une magicienne, une sorcière pour certains. La mort ne m'effraie pas et j'ai cru follement à l'amour de Jason. Il m'avait promis le mariage. Nous nous sommes mariés d'ailleurs. J'ai connu le bonheur un temps. J'ai fait usage de mes pouvoirs pour mon mari. Des herbes enchantées, les filtres, les potions magiques ou encore les incantations n'ont aucun secret pour moi.
Comment ça ?
J'ai débarrassé la cité de Pélias, l'oncle de Jason. En l'absence de Jason, Pélias a fait tuer sa mère et son père. Il fallait que je venge mon mari. Enfin, j'ai fait faire le sale travail à ses filles.
C'est-à-dire ?
J'ai persuadé les filles de Pélias de rajeunir leur père pour qu'ils vivent plus longtemps. Pour cela, je leur ai dit de le faire bouillir dans une de mes potions.
Bouillir ?
Oui, j'ai même fait une démonstration. J'ai découpé un mouton en morceaux, je l'ai fait bouillir dans ma marmite avec des herbes magiques et il est redevenu un agneau.
Mais vous pouvez faire ça ?
Évidemment, j'ai donc convaincu les deux filles d'en faire autant. Seulement le jour où je leur ai donné les herbes sans aucun pouvoir. Elles ont donc causé la mort de leur père.
Jason a dû vous en être très reconnaissant.
Il a été au début. Nous avons été vraiment heureux. J'ai eu deux fils, Mermeros et Férès. C'était le père de mes enfants, de mes deux petits princes.
Que s'est-il passé ensuite ? Pourquoi votre bonheur n'a-t-il pas duré ?
Pourquoi ? Jason m'a abandonnée. Il m'a rejetée pour épouser une grecque, Glauquée, la fille du roi Créon. Moi, j'étais la barbare, celle dont se méfiait alors que j'avais tout sacrifié pour lui. Ma patrie, ma famille, je suis devenue une criminelle.
Vous vous êtes sentie humiliée ?
Pire que cela. Je ne pouvais rien faire dans cette cité où l'homme a le pouvoir. J'ai été bannie, mais avant de partir, j'ai eu le temps de préparer ma vengeance.
Vous voulez bien nous en parler ?
Bien sûr. J'ai tué Glauquée. Je lui fais apporter un voile léger et une couronne d'or. Et lorsqu'elle les a posées sur elle, elle a brûlé de l'intérieur et est morte dans des atroces souffrances. Son père s'est couché près d'elle et est mort de la même manière.
Mais c'était Jason le coupable, non ?
Lui aussi a souffert, mais d'une autre manière. Pas besoin de filtre ou de poison. Cette fois-ci, sous ses yeux, j'ai égorgé nos deux fils. Ils étaient mes enfants, mais surtout ceux de ce traître.
Merci de votre témoignage, Médée. C'était assez glaçant, mais nous vous connaissons mieux à présent. Nous vous laissons repartir auprès d'Hélios et des autres dieux gréco-romains. Vous l'aurez compris, Médée est un personnage de fiction, et heureusement pour nous. Médée a inspiré de nombreux dramaturges grecs, comme Euripide au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou encore le romain Sénèque au 1er siècle, ou le français Pierre Corneille au 17e siècle. Merci Charline d'avoir bien voulu jouer ce rôle. À présent, nous allons écouter Lil Nas X, Don't Want It, et nous retrouverons Timothée et Steven pour la dernière partie de notre émission consacrée aux objets de la sorcellerie.
I smoke myself to sleep. I'm sad, I think I'm feeling lonely.
took one too many shots last night and I spent all my money.
Started thinking, am I stupid to be funny over things that's been haunting me all my life? Ain't no fucking living proof that if you want it, you can have anything right before your eyes.
The award goes to Lil Nas X.
The number one song on the Billboard Hot 100, Call Me By Your Name by Lil Nas X.
I wanted fame and I wanted riches. Wanted happiness, wanted forgiveness. Started focusing on all these wishes. Crazy how this shit come to fruition. I've done things in my past I'm sorry for, so please don't hold me. Old people in my life should know that I am not the only.
Nous avons donc entendu Médée évoquer de terribles sorcières, mais que savons-nous exactement des moyens utilisés pour les ensorceler ? C'est ce que nous allons découvrir avec Timothée. Bonjour Timothée !
Bonjour !
Est-ce qu'on utilisait des objets magiques pour lancer des sorts ?
Bien sûr ! Il existait par exemple des poupées d'envoûtement comme la d'Agide. C'est une poupée maléfique. On en a découvert une datant du 4e siècle après Jésus-Christ, dans un vase en terre cuite avec une tablette en plomb. Dans les pratiques de magie noire, la poupée, qui est faite de cire ou de laine, représente la personne que l'on veut atteindre. Elle est piquée d'aiguilles, coupée ou brûlée à certains endroits. Très souvent, elle contient un élément de la personne à envoûter, cheveux, bout de peau, rognure d'ongles, ou encore son nom qu'on aurait écrit. La personne visée est censée souffrir aux endroits où la poupée a été atteinte.
Et il existe d'autres moyens d'envoûter les personnes ?
Oui, il y a des potions, par exemple, on connaît le cicéon qui est un breuvage composé de grues d'orge, de miel vert, de fromage et de vin auquel est ajouté un poison. On le retrouve dans l'Odyssée d'Homère. Circé l'utilise pour transformer les compagnons d'Ulysse en porc.
Et c'est quoi les ingrédients les plus souvent utilisés ?
Dans l'Antiquité, les potions romaines utilisées pour rendre malades les personnes ou les tuer, elles sont souvent composées de plantes poison, par exemple l'aconite, la belladone, la ciguë ou la digitale. On peut aussi utiliser des champignons vénéneux ou le venin de certains animaux.
Merci Timothée. Tu nous as parlé tout à l'heure de tablettes de plomb. Steven va nous en dire un peu plus à ce sujet.
Bonjour Steven.
Bonjour.
Peux-tu nous expliquer ce que sont des tablettes de défiction ?
Les tablettes de défiction sont des tablettes magiques qui servent à maudire ou à se protéger d'une personne. Avec elles, on pouvait aussi bien rendre quelqu'un handicapé ou amoureux. En latin, le mot défictio désigne l'opération d'envoûtement d'une personne. Elle consiste à transpercer et à fixer en bas, c'est-à-dire vers les enfers et le monde des morts.
Est-ce que tu as des exemples à nous donner des raisons qui pouvaient pousser à avoir recours à ces tablettes ?
Oh, les raisons sont nombreuses. Certaines tablettes ont été faites lors de procès pour empêcher l'adversaire de gagner. On cherche à le paralyser, à l'empêcher de parler ou encore de se souvenir. Le cas plus fréquent est la recherche de l'amour ou la vengeance amoureuse. On maudit son rival, on impose son désir violemment à l'homme ou à la femme dont on voudrait être aimé. On peut aussi maudire le voleur pour récupérer ce qu'il a volé, et on a retrouvé des tablettes déposées au moment des compétitions sportives, comme les courses de chars, où on maudit un concurrent pour qu'il perde.
Mais comment se présentent ces tablettes ?
Ce sont des tablettes de plomb, dans lesquelles on peut aussi trouver toute une variété d'objets liés à la personne maudite, comme un cheveu ou un bout de vêtement. La grande majorité des tablettes sont percées d'un clou, qui montre cette volonté de paralyser, de clouer celui qu'on veut atteindre. Dans la langue grecque, le terme employé est celui de katadesmos, le lien en grec est l'équivalent du clou en latin. Dans les deux cas, il s'agit d'une prise de possession violente de celui ou de celle dont on veut obtenir quelque chose.
Mais pourquoi ces tablettes sont-elles majoritairement faites de plomb ?
Le plomb est souvent associé à la mort par sa couleur ou par le fait que ce soit un métal froid. En plus, il est facile à manipuler et il est bon marché.
Environ combien de tablettes antiques ont-elles été retrouvées aujourd'hui ?
Aujourd'hui, environ 2000 tablettes ont été recensées et datent du 6e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle après Jésus-Christ.
Mais comment est-ce qu'on crée une tablette de défiction ?
Pour ça, on peut consulter un spécialiste, un sorcier ou un magicien professionnel, car la préparation est longue. D'abord, on purifie la tablette, puis ensuite, on rédige le texte avec un stylet de bronze. Puis on la roule. On peut même parfois la clouer pour renforcer son caractère magique, et on la dépose en proférant des incantations et des formules magiques. Tout est très codifié, y compris le texte écrit. Par exemple, on nomme toujours la personne envoûtée de façon très précise en mettant sa filiation par rapport à sa mère, pour être sûr que les dieux ne se trompent pas de personne.
Mais où est-ce que ces tablettes sont-elles déposées ?
Dans des lieux discrets, mais plus souvent sur des tombes, car on dit que c'est à l'âme d'envoûter la personne.
Mais à quel dieu adresse-t-on ces prières ?
Elles peuvent s'adresser à de différents dieux, comme Perséphone, reine des enfers, ou bien Hécate, déesse de la lune, de la sorcellerie et de la magie, ou Hermès, pour son rôle de guide des morts vers les enfers.
On peut contrecarrer un maléfice ou pas ?
Oui, on peut la contrecarrer avec un objet ou une pierre faite en quartz, qu'on porte plus souvent autour du cou. Les formes des pierres et des entailles peuvent varier.
Mais c'est quoi une entaille ?
Une entaille, c'est par exemple une amulette, une sorte de pendentif qui a une valeur apotropaïque, c'est-à-dire le pouvoir de repousser les mauvais sorts. La boula protège aussi des sorts. C'est un pendentif en or ou en cuir, rempli aussi d'amulettes. Elle écarte les mauvais esprits.
Merci Steven. Vous voilà maintenant des spécialistes de la sorcellerie dans l'Antiquité.
C'est à présent le moment de nous quitter. Merci à Radio Tintouin et à tous ceux qui ont réalisé cette émission. Nos animatrices, Eliette et moi, Pénélope. Nos intervenants et spécialistes, Charline, Lara, Maël, Steven et Timothée. Nos techniciens, Hugo, Guillaume et Timéo. Et nos communicantes, Laurine, Émilie et Serena.
Radio Tintouin,
la radio qui fait le lien,
qui fait du bien,
et parfois qui fait
quoi.